Alors, avec ma communication 2.0, je pense qu'il y a déjà le raté. On attend la présentation. Je vais commencer par faire un suivi un peu accrocheur, justement, avec mon collègue qui disait qu'on est toujours une vente ou un effet marketing. Mais je voulais simplement vous mentionner que ceux qui seraient intéressés à en savoir plus sur ce que je vais dire aujourd'hui, c'est l'essentiel qui est repris de ce chapitre introductif. De ce bouquin qui vient de sortir chez Palgrave, Global Governance Facing Structural Changes. Et j'ai l'immense plaisir de l'avoir édité, dirigé avec la directrice donc, adjointe de l'IEIM, donc Kim Fontaine-Skronsky, que je remercie. Et donc, un paquet d'idées qu'on a brassées autour de l'écriture, la rédaction de ce bouquin. Je dois la remercier donc pour la vivacité de ses remarques, de ses suggestions. Et donc, je vais commencer tout simplement par vous dire que je vais prendre une approche assez généraliste et historique pour replacer un petit peu tout le travail de l'ONU, cette vieille dame. Donc, je ne voudrais pas manquer de respect à cette vieille dame de 70 ans. Mais en même temps, je pense que tout en reconnaissant l'immense travail qui a été fait à travers les décennies autour de l'ONU et de ces institutions spécialisées, il faut quand même avoir le courage de faire un constat assez, un constat courageux, hein, de voir que historiquement, peut-être, cette vieille dame n'a pas les reins assez solides, ou en tout cas le courage ou la constitution pour changer et s'adapter donc à ce nouveau contexte. J'en profite pour dire que je termine ma présentation de façon plus, optimiste, mais en tout cas de façon plus positive, en disant que, comme mon collègue l'a mentionné plus tôt, un des défis de l'ONU, c'est de justement travailler en réseau. Donc, c'est pour ça que je parle de coopération internationale 2.0, c'est-à-dire comment l'ONU peut réinventer son mandat et son rôle à travers justement le tissage de liens avec une pluralité d'acteurs et d'organisations qui font émergence. Donc, le sous-titre du bouquin dont je parlais, et New Institutional Trajectories for Digital and Transnational Capitalism. Et donc, l'essentiel de notre réflexion était de situer l'ONU, donc, qui répondait à des problèmes, si on veut, du 19e siècle, dans le contexte du 20e siècle, et de voir justement, aujourd'hui, au 21e siècle, est-ce qu'on peut faire un retour vers le futur, hein, de retourner comme... dans le film, refaire des setups et de revenir aujourd'hui avec une constitution, un ADN renouvelé. Je pense que c'est possible, donc ma conclusion oppose le nouveau et l'ancien en disant que l'ancien ne peut peut-être pas se réformer de façon radicale, mais à tout le moins, je pense que l'ONU peut se réinventer en tissant des liens avec de nouveaux acteurs et surtout en faisant des liens avec des émergences normatives qui ne sont pas nécessairement le fait d'organisations internationales ou d'organisations infranationales. Il y a d'autres types d'acteurs. Donc, je suis vraiment désolée, les techniciens m'ont abandonné ici sans mon PowerPoint, qui était d'ailleurs... Alors, je vais faire sans. Je vais simplement essayer de m'en inspirer ici. Parce que la première donc, image était de faire justement ce saut « back to the future ». Et donc, ça oppose justement ce que j'ai appelé l'ancien ou nouveau. On a parlé, j'imagine que vous avez entendu beaucoup, le mot « souveraineté ». Donc, je pense que le principe fondamental de toute l'action de l'ONU, c'est justement de chercher une coopération internationale, mais tout en s'appuyant sur les souverainetés. Aujourd'hui, on a une pluralité d'acteurs qui remettent en cause justement ce principe de souveraineté. M. David mentionnait que j'étais spécialiste de l'économie politique et des questions commerciales. Je pense que les mouvements de capitaux, de commerce et autres, on parle maintenant du big data, il y a des flux de données qui traversent nos frontières et qui remettent en cause justement les compétences nationales et aussi les fondements de la coopération internationale qui se fondent justement sur une coopération entre États souverains. Le deuxième, c'est l'international versus le transnational, c'est-à-dire que le 19e et le 20e siècle ont été fondés justement sur une coopération internationale, donc entre les États, les nations. Tandis qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus intérêt à faire un saut vers le transnational. Mais c'est un saut qui est très difficile, justement sur la base de la dépendance au sentier de cette organisation qui est un monstre. Hein, c'est très lourd. 70 ans de construction normative et institutionnelle. Donc, comment inventer le transnationalisme à l'intérieur de l'ONU? Je pense qu'il y a des façons de le faire, mais c'est pas facile. Le troisième axe de comparaison, c'est que l'ONU était fondée sous le principe de solidarité. Je pense que c'est quelque chose qui anime tout l'esprit, la lettre de l'ONU. Et aujourd'hui, on vit de plus en plus dans une ère de concurrence pour le meilleur et pour le pire. Quelquefois, dans le sens de trouver des bonnes pratiques, des meilleures pratiques par l'émulation, la concurrence. Mais souvent, c'est un nivellement par le bas. Et c'est la destruction, c'est les crises, notamment économiques, la finance, etc. Donc ça, c'est un défi énorme que de réinventer l'action collective de l'ONU en acceptant donc ce rôle, ce principe de concurrence qui prime souvent sur les solidarités. Et ça, c'est aussi, je dirais, une conséquence donc l'importance qu'a pris une organisation comme l'OMC, même si elle est aussi devant d'énormes défis, mais aussi bon, tous les accords de commerce qui repoussent justement les souverainetés et les modes de solidarité. Le quatrième axe, c'est le territoire, donc versus gestion des flux. J'en ai déjà abordé un petit peu, donc je ne reviens pas là-dessus. Aussi, le mode de gouvernance hiérarchique. C'est vraiment quelque chose qui est inscrit à l'ONU, tandis que maintenant, on vit des modes de gouvernance de plus en plus décentralisés. On le voit avec l'impact donc, de la gouvernance, qu'on pourrait dire numérique. Les gens ont plutôt tendance à favoriser ce qu'on dit le bottom-up, hein, une gouvernance par le bas. Et c'est très difficile à articuler ce type de gouvernance avec le modèle donc, de l'ONU. Ensuite, bon, le multilatéralisme, rappelons-le, c'est au centre, au cœur donc, de l'ONU, versus maintenant, c'est la coopération à la carte. On peut aller du bilatéralisme, unilatéralisme, on peut avoir du plurilatéralisme, on peut avoir du régionalisme, on peut... Donc, en quelque sorte, il y a une coopération à la carte qui met non seulement l'OMC, par exemple, devant une espèce de bol de spaghetti, mais également l'ONU. Comment faire de l'ordre avec toutes ces règles qui se développent à gauche et à droite? Est-ce qu'on devient, comment dire, un organisateur, un facilitateur, une mise en réseau de ces règles? Peut-être que c'est un rôle que l'ONU peut essayer de jouer, comme par exemple l'OMC essaie de le faire avec la prolifération des accords commerciaux à gauche et à droite. L'autre axe de comparaison ou d'opposition, c'est l'intégration. Dans les années 40-50, on parlait beaucoup de cette intégration, et maintenant on n'en parle plus. L'idée de faire un monde unipolaire, undivided world, je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile à entrevoir. Mais on parle beaucoup plus d'interconnexion, de partenariat. Donc, cette idée qu'on ne va pas nécessairement dans la même direction, mais qu'on peut quand même travailler ensemble, c'est un défi énorme, je pense, que ce passage. L'universalisme versus la diversité. Ça rejoint un petit peu, mais c'est quand même très différent comme idée, justement, d'avoir un universel versus respecter les diversités culturelles, etc. Je pense qu'au niveau normatif, c'est, vous en prévoyez tout de suite, là, toute la difficulté. Et, bon, le dernier, il y en aurait plusieurs autres qu'on pourrait aligner comme ça, mais je pense que j'en ai dit assez. Unipolaire versus multipolaire, rappelons-le, les Nations Unies sont construites sur le modèle d'internationalisme libéral des États-Unis, avec leurs alliés. Et maintenant, on est dans de plus en plus un modèle de gouvernance qui doit être multipolaire. Et ça, c'est un défi non seulement pour les États-Unis, mais un défi énorme pour les Nations Unies, où vous en avez entendu parler à plusieurs reprises aujourd'hui et hier. Donc là, ce que j'appelle la coopération 2.0, ah, c'est revenu, merci beaucoup.
C'est arrivé, surtout.
C'est arrivé. Ben, c'était là au début, j'étais très calme, mais ensuite, bon, j'ai vécu un petit traumatisme, mais maintenant, je peux...
Comme le nu.
Faut pas se décourager, il faut garder l'espoir. Donc, coopération 2.0, c'est un terme un peu pompeux, mais je voulais quand même essayer d'imaginer justement comment l'ONU pouvait repenser son rôle. Et je vais prendre un exemple assez évocateur par la suite. Donc, ça serait une politique décentrée, plurielle, une articulation de multiniveaux, comme mon collègue, notre collègue l'a mentionné tout à l'heure, une gouvernance en réseau. On parle aussi de multi-stakeholders, donc ce partenariat avec différents types d'acteurs. Donc, je ne vais pas reconstruire ici tous les débats sur ce terme un peu valise de multiples parties prenantes, de multi-stakeholders, mais je pense que c'est un terme qui peut être investi et qui peut à terme donner des résultats. Mais je note quand même que plusieurs organisations internationales ont adopté cette approche multi-stakeholder et il y a une démocratisation, une ouverture justement des murs qui devient autre que de la coopération exclusivement inter-étatique. Donc, comment s'insérer dans de nouveaux contextes diplomatiques? C'est un petit peu provocateur, mais je pense que l'ONU, pour moi, le défi le plus important, merci, pour l'ONU, c'est de justement comment s'inscrire dans de nouveaux contextes diplomatiques qui justement mettent en œuvre différentes trajectoires institutionnelles qu'elle ne maîtrise pas, qu'elle ne peut pas maîtriser, mais qu'elle doit intégrer dans son fonctionnement pour être capable de rester pertinente au 21e siècle. Je vais vous donner donc mission impossible. Certains arguments contre, il y en a qui vont dire ben, il y a une dépendance au sentier qui est telle que justement on ne peut pas réinventer l'ONU. Alors ça c'est un argument qui vaut ce qu'il vaut, effectivement, mais moi je pense qu'effectivement on peut penser à certaines réformes aller dans ce sens-là. Je dirais qu'il faut réussir un ajustement donc qui serait structurel au niveau des institutions du système des Nations Unies, donc c'est un peu... un clin d'œil aux ajustements structurels des institutions de Bretton Woods. Mais effectivement, je pense que pour l'ONU, c'est véritablement ses structures, son mode de fonctionnement, sa mentalité, sa culture institutionnelle qui doit s'adapter. Les mots donc, qui s'imposent, pour moi, c'est la vitesse du changement, la vitesse de réaction. Alors ça, je pense qu'il y a 70 ans, on ne pouvait pas prévoir ça. Alors, il y a quelque chose à faire dans ce mot vitesse, réseau. Ça aussi, il y a beaucoup de défis, les réseaux de trafiquants, etc. Mais il y a aussi beaucoup d'opportunités pour l'ONU pour se réinventer. Interconnexion, diversité. Alors là, il va y avoir beaucoup de réactions et de replis. Je pense aux replis derrière les frontières, nationalistes, etc. Mais je pense que si on commence à envisager la coopération 2.0 de façon innovante et constructive. J'ai l'impression qu'il y a un futur pour plusieurs organisations. Et je dois mentionner, donc j'ai plusieurs exemples parce que dans un projet CRSH que je suis en train de compléter, je fais une analyse comparative de plusieurs domaines. Donc la société de l'information, les télécoms, etc. Le domaine du travail et le domaine de la culture. Et je vais prendre celui de la culture puisque je viens de terminer un travail sur ce domaine. Et c'est fort intéressant, justement, de voir comment la culture, donc qui est du domaine de l'UNESCO, a été complètement transformée par, justement, l'émergence de nouvelles normes commerciales, dans le droit commercial, qui, justement, faisaient peut-être craindre pour l'homogénéisation culturelle du monde. Et l'ONU a réagi avec une convention, donc typiquement une réponse, je dirais, internationale face à une menace qui venait de l'extérieur du système des Nations Unies, donc les accords commerciaux et l'OMC. Donc, cette convention a quand même été ratifiée par plusieurs pays depuis donc 2005, mais maintenant, elle fait face à un nouveau, donc, un nouvel enjeu, non seulement l'assaut des accords ou les impacts des accords commerciaux, mais l'impact du numérique qui, lui, fait traverser les flux de données. Donc, qu'en est-il de cette convention? Et là, à l'UNESCO, on se pose la question de comment réagir et on vient d'adopter des directives ou l'idée d'aller vers des directives opérationnelles à l'UNESCO pour s'ajuster. Alors là, ce n'est pas gagné parce que lorsqu'on regarde cette question, La culture de l'UNESCO, elle est en silo. Le domaine de la culture doit être séparé, protégé du domaine, par exemple, du numérique ou des effets négatifs du numérique ou des effets négatifs du commerce. Mais en même temps, on sait tous que maintenant, ces domaines s'articulent dans la réalité et on ne peut pas nier leur articulation. Donc, l'idée derrière la coopération 2.0 à l'UNESCO, c'est de dire, de ne pas nier les changements, mais d'aller vers une gouvernance donc, qui serait au-delà des silos, donc des organisations spécialisées, commerce, culture, numérique, mais d'avoir un travail concerté. Qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain? Bien, ça veut dire que l'UNESCO doit travailler avec les accords commerciaux, doit travailler avec, par exemple, l'UIT, avec l'ICANN, qui sont du domaine des organisations qui font beaucoup un travail d'importance et très structurant sur le domaine culturel maintenant. Alors, je vais conclure pour dire que cette petite histoire donc sur la triangulation commerce, culture, numérique, on pourrait le faire aussi avec les normes du travail. L'OIT n'est plus la seule organisation qui fait des normes du travail. Et la même chose, par exemple, dans le domaine de la concurrence. Donc, il y a maintenant, on n'a jamais pu faire des règles de la concurrence à l'intérieur même du système des Nations Unies, mais il y a un réseau qui a été créé à l'initiative des États-Unis qui est composé désormais de au-dessus de presque 200 pays et organismes aussi infranationaux qui se posent la question justement de comment régler les problèmes de concurrence dans le monde, c'est-à-dire ces fameux monopoles ou par exemple les GAFA dans le numérique, les Google, Amazon, Facebook, etc. Donc, ce n'est pas nécessairement à l'ONU qu'on va régler ça, mais l'ONU doit prendre, s'appuyer sur ces nouvelles émergences institutionnelles pour justement ne pas être, d'une façon un peu cavalière, largué. Faire partie justement de ces transformations-là et les accompagner. Alors, je vais me taire ici et je vais vous remercier.